À l'occasion du salon d'édition indépendante Offprint 2022, Dieu réalise une série d'entretiens avec des éditeurs, graphistes et artistes. Ce programme est réalisé en partenariat avec le Centre national des arts plastiques. Rudy Gage pour Building Fictions, en discussion avec Victoire Lebars.
Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter et présenter entre autres la maison d'édition que tu as fondée aux Pays-Bas?
Oui, bon, bah, alors du coup, je vais peut-être commencer en me disant que je suis graphiste, je suis parti aux Pays-Bas, je suis français à l'origine, j'ai fait mes études à Lyon, c'est un peu là-bas que je me suis familiarisé avec le design, on va dire, pour la première fois. J'ai passé un BTS comme visuel. Je faisais beaucoup de dessins à l'époque et je cherchais ensuite à trouver une façon un peu d'explorer d'autres champs pour m'exprimer. Et je suis parti donc étudier à la Rietveld Academy à Amsterdam. Donc j'ai passé un bachelor à la Rietveld et en finissant mon diplôme, j'avais déjà un projet de livre qui était en cours pour lequel j'étais graphiste. C'est un peu ça qui m'a mis, on va dire, le pied à l'étrier. Et qui m'a un peu introduit voilà, au rôle que le graphiste pouvait avoir là-bas. Il y avait quand même beaucoup de liberté dans ce projet. C'est un projet qui m'avait fait voyager aussi. J'ai pu proposer du contenu, des workshops. Et donc, il y a quand même pas mal de choses qui se sont formées autour de ça et qui m'ont donné l'idée de travailler avec la forme du livre. Ensuite, Building Fictions, je l'ai commencé, on va dire, en 2017. Pour la genèse ou l'histoire, on va dire que j'avais obtenu une subvention qui était là pour supporter les jeunes étudiants qui venaient de finir leur diplôme. Et je cherchais à l'époque, comment utiliser cette subvention de façon un peu intéressante et la faire durer. J'ai du coup eu l'idée de monter cette structure Building Fictions qui m'aurait permis de canaliser un peu les différentes formes de mon travail qui passent, qui est aussi pas mal du dessin, des fois l'écriture. Mais à la base, c'était vraiment aussi l'idée d'utiliser une plateforme d'édition pour collaborer, parce qu'il y avait un peu ce truc du graphiste où je me sentais un peu seul parfois. Bon, il y a beaucoup la collaboration avec les clients, mais il y avait beaucoup de décisions à prendre seul et j'avais cette envie de me connecter avec une communauté qui est proche de moi. Et du coup, la plateforme est un peu apparue comme ça, avec cette envie de créer des objets qui vont avoir des voix multiples à l'intérieur.
Et donc, le premier livre que tu as édité, c'est celui-ci.
Tommy Rumble, okay. To Me Rubble, qui a été fait en collaboration avec un ami auteur, Will Pollard, qui vient de Nouvelle-Zélande, qui est basé aux Pays-Bas. Le projet, en fait, a émergé d'une commission qui m'a été passée par deux amis, Laura Papa et Elisabeth Clement, qui sont deux graphistes à Amsterdam et qui, à l'époque, organisaient une expo à Tallinn, en Estonie, sur les pratiques de graphistes qui sont un peu en périphérie de ce qu'on attend d'ordinaire d'un graphiste. Donc, qui ont aussi des pratiques un peu plus autonomes, parfois qui se formalisent sur des objets qui ne sont pas nécessairement attendus, donc sans papier, peut-être du textile, des pratiques vraiment diverses. Et la commande était de créer une fresque assez importante pour l'expo. Et l'expo se passait dans un musée au centre de Tallinn. Et à l'époque, je me souviens que j'avais commencé, parce que je n'étais pas sur place, à faire une petite recherche sur l'architecture du musée, sur son histoire. Et c'est ce processus-là qui a commencé le projet Tommy Rumble. Je voulais créer une fresque qui allait s'inscrire dans l'espace du musée même et aller s'inspirer de son histoire ou des signes architecturaux qu'il avait construits. Donc j'ai invité Will à collaborer avec moi. Ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est mis vraiment de façon horizontale. Il y avait aussi à l'époque un truc important à dire, c'est que je travaillais pas mal sur des projets d'illustration. Donc, des textes qui m'étaient fournis et il y avait toujours cette réponse de l'illustrateur qui doit se coller au texte. Et j'avais un peu une petite frustration qui s'était créée au fur et à mesure par cette hiérarchie imposée du texte sur le dessin ou sur l'image. Et j'avais envie, du coup, de trouver un autre moyen de créer un objet dans lequel, ou en tout cas un projet dans lequel ces deux éléments de langage et d'image pourrait collaborer de façon horizontale. Donc avec Will, en gros, on a fait cette recherche sur le bâtiment Et il y a eu un jeu d'association, d'analogie qui s'est créé dans notre dialogue. On a commencé à écrire des bribes de script ensemble. Moi, en même temps, je faisais des dessins. Et ensuite, il a pris le relais. Il a commencé à rédiger le texte. Donc, c'est un texte qui part du musée, qui part de son architecture. Il y avait une anecdote assez intéressante. Le musée était construit d'une façon qu'il avait différents niveaux. La galerie était dans les trois étages supérieurs. Et au sous-sol, il y avait un club, en fait. Donc, voilà, un club qui passait du son. Et on a trouvé une anecdote d'un artiste estonien de l'époque qui racontait l'utilisation de ce lieu durant l'occupation soviétique et qui mentionnait l'importance de ce club pour la scène culturelle à l'époque, qui était vraiment un moyen de digérer de digérer la situation, en gros, en se libérant là-bas. Et il y a eu cette association du bâtiment qui est devenu un peu un corps humain, avec le sous-sol qui était un espace de digestion et les étages du dessus qui représentaient plus ou moins l'esprit, la façon de conceptualiser. Donc, c'est ça un peu le...
Avant qu'on rentre dans le livre, enfin si on écoute une lecture que tu as proposée, est-ce que tu peux nous donner juste l'origine du nom de la maison d'édition, donc Building Fiction,
ouais.
Et nous dire ce que ça raconte et qu'est-ce que ça rassemble.
Alors, c'était difficile. Hein. C'est toujours dur de trouver comment nommer un projet, surtout qu'à l'époque, je pense que je n'avais vraiment pas une vision globale de là où je voulais emmener la maison d'édition, entre guillemets. Mais il y avait quand même cet intérêt dans la narration, la mise en fiction, l'imaginaire, la mise en histoire. Et le rôle que ces formes d'écriture, ou en tout cas d'approche par la fiction, pouvaient jouer dans des pratiques différentes, que ce soit des pratiques d'architecte, des pratiques de designer, des pratiques d'auteur, d'artiste. Donc voilà, c'était vraiment cette idée de jouer sur le fait que building, ça peut faire référence à un lieu, une construction, mais c'est vraiment une action, c'est un assemblage. Cette idée de coller, de construire petit à petit. Et fiction, c'était une référence à cette idée de l'intérêt pour la narration, on va dire.
Et aujourd'hui, quelques années plus tard, ça définit toujours la ligne éditoriale des livres que tu édites ?
Oui, a priori, okay. Ouais, on s'y tient plus ou moins. Alors après, il y a quand même parfois des écarts qui se font, mais il y a toujours des moyens de retrouver le fil rouge. Je pense qu'en tout cas, on s'y tient.
Ok, super.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous parler de ce qu'on va écouter
Alors, du coup, c'est un fragment d'une vidéo qui était présentée durant l'exposition que je viens de décrire. Donc, il y avait la fresque qui était au mur et un écran qui était accroché en plein milieu de la fresque et qui présentait une vidéo avec un son qu'on avait enregistré donc avec la voix de Will, l'auteur. Et... du coup, j'ai juste coupé un morceau de cette vidéo qui est, en fait, le livre arrive après la vidéo. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a pas mal de décisions dans la mise en forme du livre qui se rapportent à ce format initial qui était une vidéo, une espèce de slideshow avec la voix de Will qui raconte l'histoire qui est racontée dans le livre.
Okay. Voilà.
Fluted columns rise either side of the door and stone slabs dusted with sand lie before it. After a few meters, another row of columns marks the far side of a dimly lit rectangle. Kat holds these facts in suspension for a moment before marching forward into the center of what is clearly and inexplicably a temple in the ancient Greek style. Baby follows. The door swings to a close and stands flush with the wall behind them. The music of the club below is reduced to a faint rumble heard only at intervals. Kat is the first to notice that the columns, like the door, are too small, and the ceiling they support too low. Kat is also the first to test the space for echoes. Baby, she shouts. The word doesn't travel far. Baby has his eyes on the floor further down the space, where he has spotted the low glow of an aroma diffuser poorly hidden behind one of the columns. Its power cable disappears down a gap between two of the stone slabs. He opens his mouth as if to speak, but a rush of scented air catches in his throat. It is heavy with sulfur, sweet resin, and yeast, and, coughing, he instead waves one arm to Kat, pointing out the device, before turning to pass between the columns and out of the installation. The scaled-down replica temple has been constructed on one side of an exhibition space. Dotted around it are cast fragments of classical sculptures and the ruins of buildings. Broken columns, ankles, part of a garland, once marble. The largest of these objects is a replica of an Omphalos stone. Next to it stands a screen playing a video on a loop. One of several such artifacts, said to have once marked the center of the world, that have been found at ancient sites around the Mediterranean, Baby says, wearing the pair of headphones attached to the screen. He is duplicating the video's narration for Kat to hear. Kat, following his voice into the larger room, stops to look back to the entrance behind her, where Know Thyself has been carved into substitute stone. She begins to feel sick. Let's say a security guard finds them and kicks them out.
En gros, on suit donc deux personnages, Kat et Baby, qui passent leur temps donc dans le club en bas, qui boivent et qui deviennent très sous. Leur conversation dérive et au bout d'un moment, ils commencent à explorer les espaces supérieurs du musée. Ils entrent dans le musée et en fait se retrouvent dans un temple qui est une sorte de réplique du temple d'Apollo. Donc là où il décrit cette arrivée dans la galerie avec cette réplique du temple d'Apollo et un peu cette idée de l'artifice. Donc il découvre un diffuseur d'arômes. Et à la fin, je pense que ce qui est intéressant, c'est la fin du fragment qui dit que on peut se dire qu'un garde les surprend, mais on ne sait pas vraiment. Voilà, donc c'est un peu un moyen d'entrer et de sortir de cette fiction. Sans...
Et toi, alors, tu es à plusieurs endroits en même temps parce que tu es designer, auteur parfois, de temps en temps, et éditeur. Est-ce que fonder cette maison d'édition, ça t'a permis aussi de te donner ces rôles ?
Complètement, ouais. Alors après, je pense que c'est un peu cette espèce de curiosité constante et du rôle de l'amateur, on va dire. Parce que c'est pareil, donc je vais faire du dessin, mais je le fais pas. J'ai pas une pratique qui est journalière. Éditeur, je m'y apprends sur le tas. On apprend tous les jours. Donc il y a vraiment cette curiosité constante et cette volonté, peut-être, de pas s'emmerder et de toujours se renouveler à chaque fois. Donc ouais, c'est vraiment ça, cette idée de changer de casquette un peu tout le temps en fonction du projet et de ce qu'il requiert et de la collaboration en particulier.
Parce que, on parlait de l'école tout à l'heure, donc tu viens de la Rietveld, parfois l'éducation fait qu'on s'enferme dans des rôles et où on croit que les portes sont fermées et finalement, c'est par des gestes comme ça, comme créer une maison d'édition et que en fait on se rend compte que le design graphique c'est pas que faire au sens premier du terme, enfin à celui que certaines écoles en tout cas
non mais c'est limite. Complètement ça, et c'est vrai qu'on peut vite se retrouver à être mis dans une case, on parlait d'être mis dans des cases, et je pense qu'à l'époque j'étais quand même assez facilement mis dans la case graphiste illustrateur. Et il y avait ce rôle de l'illustrateur qui était vraiment la case que tout le monde me collait. Et j'avais envie de m'en détacher. Et du coup, il y avait aussi le fait que durant mes années à la Rietveld, j'ai passé 3 ans en graphisme, mais je n'ai pas vraiment utilisé cette opportunité d'être dans une école qui a toutes ces différentes disciplines pour connecter avec, par exemple, avec les artistes, la section Fine Arts ou quoi que ce soit. J'avais très peu de contacts. Il y en a d'autres qui les avaient, mais à l'époque, je ne l'avais pas fait. Et je pense que c'était un peu une volonté de créer une structure qui me permettrait de faire ça, de créer un pont que je n'avais pas créé auparavant, ou de me libérer d'une case qu'on m'avait attribuée et à laquelle je ne voulais pas coller, quoi.
Et donc, monter une maison d'édition, c'est faire des livres. Et faire des livres, ça demande aussi d'avoir une économie de production, de aussi bien... Alors, je ne sais pas comment ça se passe pour les collaborateurs des livres que pour son impression et le faire exister physiquement. Mmh. Est-ce que tu as mis en place des choses pour pouvoir financer tes livres ou c'est des aides
Alors, c'est
publiques
chaque projet est un peu différent, mais de façon générale, on va dire que tous les livres, il y a toujours cette étape de, on s'assied avec l'artiste et on va chercher les subventions quelque part pour mettre le projet en place. Donc, la plupart sont subventionnés par des subventions aux Pays-Bas, mm-hmm. Le Stimulering Fund, le Mondrian. Voilà, donc c'est cette étape qui nous permet de réaliser des projets qui autrement ne seraient pas... ne serait pas gérable parce que j'ai pas les moyens financiers de créer ces objets-là. Surtout qu'il y avait quand même aussi cette envie de créer des objets de belle facture, d'avoir voilà l'intérêt c'est aussi de mon côté j'avais cette envie de faire des livres et d'explorer la forme matérielle du livre. À l'époque je faisais aussi beaucoup de design d'exposition, donc de mise en scène entre guillemets, et il y a eu aussi ce rapport entre le design d'espace et la forme du livre qui s'est créé. Et voilà, donc les subventions sont essentielles pour pouvoir créer ces objets-là, sinon ce n'est pas possible.
Ouais. Il y a quand même une différence entre la première édition et la dernière dont tu vas parler tout à l'heure, qui présente à la fois un marquage à chaud, deux tons directs. Et pour le coup, c'est un livre qui a un poids réel,
un
physique.
Volume.
Quoi.
Ouais.
C'est un volume. Et quel a été le chemin pour mener vers un objet qui... Bon, celui-ci qui tient bien entre les mains, qui est assez souple et qu'on peut presque transporter. L'autre qui demande peut-être une position de lecture plus relaxe, enfin, ouais. En tout cas posée, assise. Et...
En vrai, ce projet, Tommy Rumble, il est resté modeste en taille. Je veux dire, le texte n'est pas si long, le nombre de dessins était limité. Il n'y avait pas besoin de faire un opus pour ce projet-là. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des collaborations, des rencontres avec les futurs collaborateurs, il y a d'autres projets qui ont nécessité des objets beaucoup plus conséquents. Mais je pense que c'était aussi important en termes de projet, voilà, que l'objet raconte quelque chose à chaque fois. Donc, je ne sais pas, on peut par exemple mentionner le suivant, Dear Clay. Ouais. C'est une collaboration avec Stéphanie Bechler, qui est une artiste suisse basée aux Pays-Bas également, et qui a commencé dans la mode. Et petit à petit, sa pratique s'est développée et est passée du textile à la glaise, à la terre, à la céramique. Et en gros, un jour, elle m'a invité à la visiter dans son studio. On était, on enseignait ensemble à la Rietveld à l'époque. Et. Elle commençait à montrer ses pièces terminées, les photos des pièces montrées dans les galeries, qui étaient très belles, mais qui n'étaient pas forcément ce qui m'intéressait. Et à côté de ça, elle m'a sorti une série de, je ne sais pas, 10 énormes Moleskine, qui sont ses carnets de recherche. Et voilà, le livre de Dear Clay s'est mis en place autour de ça. On a fait une sélection de double pages de ses carnets de recherche qui présentent des photos qu'elle prend durant son processus de travail. Des notes de recherche, des dessins, et il y a toute une ligne qui se crée au fur et à mesure du livre qui donne un point d'entrée dans sa pratique sans la révéler d'une façon, on va dire, un peu austère et sans montrer le boulot dans un white cube, quoi. Après, il y a aussi, je pense qu'il y a un truc qui est peut-être intéressant à mentionner, c'est que dans la plupart des objets, j'aime aussi beaucoup laisser la place à des artistes qui n'ont pas forcément exprimé la forme du texte dans leur travail et du coup utiliser le livre pour qu'ils puissent s'exprimer comme ça. Donc Stéphanie a utilisé l'opportunité pour rédiger deux lettres, une lettre qu'elle a adressée à la terre, à la glaise, et une qu'elle a adressée à la ligne. Donc la correspondance a été intéressante. Les lettres qu'elle a rédigées sont derrière les rabats de couverture. Et ensuite, le livre vient avec une enveloppe qui contient deux autres lettres. Une que moi, j'ai rédigée à l'artiste et une qu'on a commandée à Jan Verwoerd, un critique d'art, en lui envoyant le livre et en lui demandant de réagir dessus. On peut passer à No Thanks, I'm Just Looking.
Ouais, ouais. C'est parti. Alors, celui-là, c'est un livre qui est un peu plus...
Costaud,
ouais.
Il pèse son poids.
Est-ce que tu peux, pour les auditeurs et ceux qui n'ont pas le livre entre les mains, le décrire parce que là, il y a des choses qui ont été osées. Enfin, en tout cas, on est sur des formats un peu plus complexes.
Ouais, on a, alors du coup, le livre, je ne me souviens plus exactement des dimensions, mais c'est plus qu'un A4, il fait 34 par 22, quelque chose comme ça. On est sur, je ne sais pas combien de pages, un peu plus de 200 pages. C'est un papier couché tout du long, ce qui rend le livre très, très lourd. Il fait 1,3 kg. On ne l'avait pas forcément anticipé, mais quand on l'a reçu, on s'est dit que ça collait quand même pas mal au projet. Donc, c'est une collaboration qui implique pas mal de gens. Lisa Sudibasile, l'artiste, qui est une artiste française, une très bonne amie à moi, qui est également basée à Amsterdam. Et en gros, elle a eu cette idée un jour. En fait, elle a une fascination pour les, on va dire, magasins de bricolage, les hardware stores, comme on dit en anglais, et la matérialité, de façon générale. Du coup, elle avait cette idée qu'elle voulait organiser une expo dans un magasin de bricolage. Donc, on est rentré en contact avec Hornbach à Amsterdam en leur proposant le projet d'une série d'interventions qu'elle mettrait en place dans le magasin et en leur demandant s'ils étaient intéressés à collaborer avec nous. Ils ont plus ou moins refusé. Je pense qu'ils ne voyaient pas forcément leur intérêt. C'était un peu trop conceptuel pour eux. Mais ils nous ont laissé l'autorisation de documenter le lieu et les interventions que Lisa a effectuées. Du coup, l'exposition s'est passée plus comme un happening, est devenue très éphémère. On est allé là-bas avec un photographe, Johannes Schwarz, qui est un photographe qui a une pratique artistique, mais à côté de sa pratique artistique, il est spécialisé dans la documentation d'exposition. Donc, c'est pour ça qu'on voulait y aller avec lui. Donc, on est partis, voilà, tous les trois avec Lisa, Johannes et moi, passer une journée au Hornbach. Et Lisa a fait une série d'interventions sur le lieu. Et voilà, la commande à Johannes, c'était de lui dire de documenter le magasin, les techniques de présentation que le magasin utilise pour montrer ses produits, ses outils, ses matériaux. Le point d'intérêt de Lisa, en fait, c'est que ces matériaux qui sont dans les magasins de bricolage sont souvent la base que les artistes utilisent et qui subissent une transformation pour ensuite finir dans l'espace du musée, de la galerie. Et elle aime beaucoup jouer sur c'est un peu un côté, elle va renverser les rôles, elle va prendre des modes de présentation et les présenter dans la galerie ou insérer voilà, des pièces dans un espace qui n'est pas un musée. Du coup, voilà, le bouquin, c'est un catalogue des interventions et des modes de présentation du magasin. Il est accompagné, toutes les photos sont accompagnées il y a un personnage qui revient assez fréquemment et qui aussi raconte des anecdotes. Et ces anecdotes sont rédigées par Lisa, donc l'artiste elle-même, et explique un peu voilà, son intérêt vers les modes de présentation. Et je pense qu'on peut mettre un extrait où on entend la voix de Lisa nous raconter tout ça.
The ancestor of the hardware store, the general store, was a place that reflected the needs and values of its community, a place where you could find eggs next to scissors. In the beginning of the 20th century, local hardware stores were born out of the need to specialize sellers of hard merchandise, differentiating themselves from sellers of soft merchandise, like textiles or food. Despite this split, hardware stores remained a social hub where one could discuss a DIY project and procure personalized advice over the counter. In the first half of the 20th century, a customer's reach over products was limited by the presence of this physical barrier. Not all products were visible. The proprietor would discuss with the customer, searching out back in the stockroom positioned behind the counter. Museums are born from curiosity cabinets and private collections. Only the educated gentry would visit such places. A good example is the oldest Dutch museum, the Tyler's Museum in Haarlem, founded in 1778. It brings together Peter Tyler's collection of artifacts, books, scientific instruments, drawings, fossils, and minerals. In the Oval Room, the emblematic centerpiece of the museum, public demonstrations and experiments were held. A long table of scientific instruments was at the disposition of invited guests to handle and examine. From 1801, display cases were added to the table and the surrounding shelves were encased with glass to protect what had become a collection. This shift from touching to looking, from physical interaction to distanced observation, marks the birth of museums as we know them today. It is a development that went hand in hand in that of commercial displays, which by the end of the 19th century flourished in shop windows and display cabinets. The great exhibition at the Crystal Palace in London in 1851 introduced and celebrated the incongruous mix of consumption and art through commodity display. Blending mundane everyday objects together with works of art and changing their modes of presentation, the perceived value of these items changed, reinforcing their fetishized status. Fernand Léger was one of the first artists to admire the highly organized spectacles offered by store windows, comparing this art to painting or sculpture. Conversely, hardware stores evolved from a counter-based experience with the stockroom out of bounds to a stockroom-based experience with the cash register only visible when the tour of the showroom is complete. The once encased tools and materials of 19th century hardware stores are now accessible to touch, compare, and even displace. You are free to rearrange the displays at your will. The vast majority of products can be handled without permission. No one will search out back for you. You search out front and take it to the counter yourself.
Ce projet, c'est quelque chose auquel on assiste en train de se faire.
Oui, il y a vraiment un moment, une question de temporalité aussi, qui a tout de suite mis aussi en question le rôle du livre face à l'exposition de façon générale. Sachant qu'on a eu, on était confronté au fait qu'on ne puisse pas organiser une exposition qui dure un moment donné et que l'exposition serait totalement éphémère et beaucoup plus un happening. Le livre joue ce rôle de l'exposition. Voilà,
Et puis ton rôle aussi, parce qu'il y a pas mal de moments où tu vas sur le terrain aussi pour faire des livres.
Ouais, ouais, carrément.
Et donc, il y a des expériences qui font des livres. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais anticipé ou est-ce que c'est vraiment un processus de production pour faire des livres, c'est-à-dire de vivre des expériences, d'avoir des discussions avec... avec les autres.
À fond, et c'est aussi ça qui était excitant dans le projet, c'était d'ajuster au fur et à mesure, de voir les opportunités où elles se plaçaient, et le fait d'aller sur le terrain avec Lisa, on a passé plusieurs journées là-bas à explorer le magasin, à voir comment les matériaux étaient présentés, qu'est-ce qui était d'intérêt pour le projet. On y allait aussi avec un enregistreur pour enregistrer le son. Il y a quelque chose qui se fait sur le moment. Il y a des questions d'édition aussi où certaines décisions sont faites après coup, où on décide de présenter ça, mais pas ça. Voilà, il y a plusieurs éléments qui sont à prendre en compte. Mais au final, c'était l'excitation d'y aller ensemble et de mettre ce projet en place ensemble. Quoi.
Ouais. Et quand on est une jeune maison d'édition, participer à des foires comme celle-ci, comme Offprint, ça permet d'avoir une lisibilité, mais à quel moment on se sent légitime d'y participer à quel moment, enfin, quand est-ce que c'est arrivé dans votre, dans ton processus de se dire, OK, maintenant je vais rendre public d'une autre manière que par un site internet, Instagram
Ouais, y a eu pas mal d'étapes entre tout. Il y a aussi cette question de la distribution qui était hyper importante. Quand on a un seul ouvrage, voilà. Comment on distribue? Je distribuais tout seul via ma plateforme, via le site web. J'avais pas de distributeur officiel. Après, il y a cette question de responsabilité aussi quand on commence à collaborer avec des artistes qui passent du temps, qui mettent des efforts pour mettre en place les projets. Il faut aussi qu'on puisse apporter une visibilité et que les livres circulent, qu'ils soient distribués. Donc, l'étape d'après, c'était de trouver des distributeurs, donc comme Adia Books, comme 12 Books. Et l'étape suivante, c'est celle-ci, donc de participer à des salons. Je ne sais pas, il y a eu une espèce de déclic. Je me suis dit, j'ai 5 bouquins, 6 bouquins. Peut-être que ça suffit pour remplir une table. C'était tout simplement ça, je pense. Ouais.
Ok. Est-ce qu'on parle du dernier ouvrage coup, que tu viens d'éditer
Rapidement, ouais. Donc c'est 333, qui est un livre que j'ai fait avec un artiste vidéo, Lucas Rem. Alors lui, il a pas mal de casquettes aussi, il fait de la vidéo, il travaille sur de l'opéra, il fait du son. J'ai mis le livre en page avec une designer très très chouette aussi, qui s'appelle Tatiana Sturmer. Donc, on a travaillé tous les trois. Et là, c'est pareil, c'était une collaboration très étroite entre nous trois. Comment est-ce qu'on peut tacler le challenge d'un bouquin qui va parler de vidéo? On a travaillé avec une tonne de screenshots des films de Lucas et plusieurs pistes. La piste qu'on a retenue, c'est de pas essayer de mimiquer, on va dire, d'imiter ce qui se passe dans les films, mais plus de considérer le livre comme un projet à part. Donc, on a pris donc ces screenshots et on a fait un gros mix. On a décidé de transformer son travail en roman graphique, en gros. Donc, il y a une narration un peu décousue qui se fait en mode collage grâce à des bribes de script, des éléments de texte de recherche, de théorie qui ont informé son travail. Et donc, le livre est divisé en différents chapitres. Il y a une espèce de dramaturgie qui s'est créée dans le processus d'editing en chapitres qui sont marqués ensuite par des inserts à chaque fois qui présentent le travail de Lucas non édité. Donc, en gros, là, pour le décrire un peu visuellement, on regarde vraiment des pages qui ont une ligne graphique qui permettent de coller à cette idée du comique, on va dire. Et après, elles sont séparées par des pages un peu plus glossy qui présentent les screenshots des films de Lucas non édités, comme ils sont normalement présentés dans son travail. Après, Lucas, donc, comme je disais, il travaille aussi pas mal sur le son. Il a un alias, s'appelle Libas Dimem. Et vu que l'expérience d'un film ou d'un travail vidéo, c'est assez spatial. Il a souvent des installations avec 6 écrans, 10 speakers. On s'est dit que ça peut être un peu chouette d'explorer ce truc-là aussi avec le bouquin. Et donc, à la fin du livre, il y a un code pour aller accéder à la soundtrack que Lucas a créée pour le livre. Donc, chaque chapitre a une track qui est accordée.
Ok. Et donc, voilà. Et tu voulais proposer qu'on ait... Alors là, on va s'arrêter là pour la discussion, mais on va mettre le dernier extrait.
Fini en musique. Okay, c'est un peu dark et un peu intense. Du coup, c'était assez doux comme discussion. Là, on finit. C'est vraiment sans... Ouais. Sans transition, mais
c'est super.
Un des sons qui accompagne 333.
Merci Rudy Getsch.
Merci à tout le monde pour votre invitation. C'était super.